Direct en jeu, la radio insolite, on est sur le Festival Lumière, on est sur la scène du village du Festival Lumière, à côté de la grande affiche qui nous dit l'année où le Festival de Cannes avait lieu en juillet. C'était en 2021, et je vous rappelle qu'en 2021, il y a eu quelque chose d'original, puisqu'il y a eu deux festivals en même temps. Il y a eu le Festival de Cannes, et puis il y avait le Festival d'Avignon. Et évidemment, j'ai voulu, durant ce Festival Lumière, continuer toujours encore à suivre cette dynamique entre ces deux arts, ces deux éléments du spectacle vivant. Et aujourd'hui, je suis content d'accueillir Julien. Bonjour Julien.
Bonjour.
Julien, tu es, comment il faut te présenter ? Comédien, voix off, magicien, comment faut-il te présenter ? Vas-y.
Magicien, non, mais acteur, oui. Acteur, voix off, et auteur par moment, plutôt dans le champ du documentaire. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça mon pédigré, on va dire, ou les cordes que j'ai à mon arc. Ouais.
Qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans quand tu étais petit ?
Dans quoi ?
Dans le choix d'être un acteur, oui.
C'est compliqué de savoir exactement. Déjà, j'ai mis du temps à l'accepter, moi, cet endroit-là, à me dire que c'était à cet endroit-là que je voulais vraiment être et que je me sentais bien.
Ah bon ?
Parce que c'est quand même pas une vie très sécurisante.
Ah bon ?
Et donc j'ai mis un peu de temps à m'y lancer vraiment et à me dire que c'était à cet endroit-là que je voulais vraiment être. En tout cas, que c'était de cet endroit-là que j'avais envie de questionner le monde dans lequel on vit. Parce que ça, je crois que c'est un fil rouge pour moi. Mmh. C'est-à-dire ce rapport à essayer de comprendre ce qui nous entoure ou en tout cas essayer de le questionner. Donc c'est pour ça que je suis passé sans doute par le documentaire avant, par le travail plus éditorial, qui pour moi est pas très éloigné du travail d'acteur. C'est juste un endroit différent de regarder le monde. Voilà, mais après, qu'est-ce qui m'a mis là-dedans ? Je sais pas. Je crois qu'il y a pour moi un désir profond d'interprète, c'est-à-dire de partager des émotions et de les vérifier en les partageant avec avec le public. C'est-à-dire de manière un peu étrange, il y a une manière de vérifier que je suis pas tout seul à ressentir ça. Ça me rassure en fait. Alors ça, c'est un côté un peu égoïste, mais on a tous des leviers aussi intimes. Et je crois qu'il y a un truc de cet ordre-là. Et puis après, derrière ça, il y a l'envie forte de porter des récits, de porter des histoires, ouais, de partager ça.
D'accord. Donc on peut pas accuser ta famille de t'avoir inspiré ce métier. Ils étaient pas.
Alors, pas complètement, mais en même temps, je suis pas issu d'une famille non plus complètement toute blanche sur ce sujet-là. parce que ma mère est danseuse.
Oui. Ah, d'accord.
Ma mère est professeure de danse et danseuse. Mon père n'a pas été musicien professionnel, mais il a une fibre artistique très forte.
D'accord.
Dans la musique et dans la photo, j'ai un frère qui est premier assistant et qui a été réalisateur. J'avais une sœur qui était première assistante réalisatrice aussi. Oui, il y a quand même un amour de ces métiers-là, en tout cas. Personne m'a jamais dit il faut que tu ailles faire ça, mais personne m'a jamais dit il faut absolument pas que tu fasses ça non plus.
tu es passé par une formation, tu es autodidacte ?
Oui, non, je suis passé par une formation. En fait, les premières années après mon bac, je me suis posé la question de savoir si j'allais faire une formation d'acteur tout de suite à 17 ans. Et c'est là que j'ai pas eu complètement le courage de le faire. Je suis parti faire une formation de journaliste. Mais à côté de ça,
il n'y a pas de ce métier pour info.
Non, il n'y a pas de ce métier. Puis j'étais ravi de ça. Ouais. Mais à côté de ça, je travaillais quand même en parallèle. Enfin, je suivais une formation en tant qu'acteur. En fait, très concrètement, quand je me suis inscrit, que j'ai fait mon unité de journalisme à Tours, j'étais en même temps pris au conservatoire là-bas,
d'accord,
un conservatoire de région.
Ah oui.
Que j'ai finalement pas pu faire, j'ai pas pu faire l'année parce qu'en fait j'avais plus de 8 heures de cours de chaque côté. Donc à un moment donné, je me suis dit ok, je peux pas faire les deux.
Uh-huh.
Donc j'ai fait mon cursus de journaliste pendant 2 ans et ensuite j'ai pris des cours du soir en tant qu'acteur d'abord à Paris, quand je suis revenu à Paris, et puis à un moment donné j'ai démissionné de mon travail de journaliste pour vraiment faire une formation d'acteur à 25 ans. Là j'ai fait 2 ans de formation dans une école à Châtillon, qui aujourd'hui n'existe plus en tant que telle. Elle existait à Marseille, puisque c'était une école qui était liée à une compagnie de théâtre, qui elle-même est partie de Châtillon pour aller s'installer à Marseille.
D'accord, ok. Quand tu as commencé, tu étais déjà dans cette notion de, j'allais dire, de pièce ou d'activité à message. Parce que c'est vrai que là, on va parler de la pièce Les Deux Frères que tu fais avec Renaud Merviel. Elle est sacrément, c'est vraiment une pièce de théâtre qui fait passer un sacré message.
Oui, un sacré message. En tout cas, c'est une pièce qui essaie de porter un récit qui questionne. En fait, je ne sais pas si c'était là consciemment dès le départ, c'est compliqué de le savoir, mais je crois quand même. Alors, j'ai pas encore beaucoup de recul sur mon propre parcours, puis ça sera intéressant de regarder ça dans 40 ans, mais dans mes choix, il y a toujours eu cette envie, effectivement, de se dire, ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le questionnement, c'est-à-dire en quoi ça me permet de me questionner sur le monde dans lequel je vis. C'est sans doute pour ça que j'ai travaillé comme journaliste, mais c'est sans doute la même chose qui m'a poussé vers le travail d'acteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai besoin de porter des choses en tant qu'acteur qui questionne profondément le monde dans lequel on vit. Alors, c'est pas toujours le cas, on va pas se mentir, hein. On peut pas toujours trouver ça, mais c'est sûr que moi, j'essaye toujours de chercher ça, en tout cas. Et je me rappelle d'une des choses que me disait le directeur de la compagnie avec laquelle j'ai fait ma formation, justement. Il nous disait souvent, quand les gens viennent vous voir au théâtre, vous prenez une heure et demie de leur vie. En fait, ils vous donnent une heure et demie de leur vie. Et c'est pas rien, en fait. Donc, quand vous faites ça, sachez pourquoi vous prenez cette heure et demie. Et la prenez pas pour rien, en fait, parce que les gens ont autre chose à faire. Enfin, c'est précieux, une heure et demie d'une vie. Donc, essayez de porter des récits qui veulent dire quelque chose, quoi, qui vont leur apporter quelque chose. Alors, des fois, ça peut être à travers une comédie. Ça veut pas dire qu'il faut toujours être complètement sérieux, qu'il faut être dans le dramatique, etc. Hein. Mais ça veut juste dire qu'il faut avoir conscience de ça et de se dire, OK, je monte sur scène ou je fais un film, mais c'est pas pour... C'est pas du vent, en fait, hein. Voilà, il y a des gens qui vont passer une heure et demie à écouter ce que j'ai à leur raconter. C'est quelque chose, quoi, oui, écouter quelqu'un pendant une heure et demie. Donc, donc voilà, ça va avec cette conscience-là, je pense. C'est un peu une éthique de ce boulot-là, quoi.
D'accord. Que ça soit au théâtre ou au cinéma, il y a un acteur, il y a un film qui t'a inspiré ?
Oui, il y en a plein. Au cinéma, je dirais, en fait, moi, j'ai trois films culte au cinéma. Le premier, c'est Mon nom est personne de Tonino Valéry, avec Terence Hill et Henry Fonda, qui est un western, mais qui est un western très étonnant parce que c'est un western de la bascule entre les vieux westerns américains et les westerns spaghetti italiens, et qui est une histoire tellement touchante. Assez drôle, mais en même temps tellement émouvante de ce passage-là entre ce personnage de personne qui est interprété par Terence Hill, le jeune, celui qui monte, quoi, et le personnage d'Henry Fonda qui disparaît dans le décor, quoi, qui laisse le monde dans lequel il a évolué et qui laisse la place. Et ça, c'est un film qui m'a toujours profondément touché. Après, il y a Paris, Texas de Wim Wenders. Dans son tempo, dans ce qu'il raconte, dans ces images, moi, m'a toujours marqué. Et puis il y a Bagdad Café.
Tu cites des monuments, pour info, quand même.
Oui, c'est des monuments, bien sûr. C'est des monuments énormes, mais c'est compliqué d'être touché par. Enfin, on est forcément touché, bercé par des monuments, mais c'est des films dans lesquels moi je retrouve une saveur qui me parle beaucoup, en fait, et qui m'a construit, je pense. Mais ça, je m'en suis rendu compte après coup. C'est-à-dire que, par exemple, Mon nom est personne, je l'ai vu quand j'étais, je pense, enfant et adolescent. Et puis après, je l'ai revu autour de 20-25 ans, je pense. Il y a eu une période où je ne l'ai pas vu. Et à 25 ans, je l'ai vu, je me suis dit, mais ce film m'a tellement construit, en fait. Ce film raconte tellement ce que je suis, sans que je m'en rende compte. Mais je pense que j'y ai projeté des choses. Enfin, non, c'est pas que j'y ai projeté des choses, c'est que j'y ai puisé des choses, justement. Ça revient à cette utilité de faire du théâtre, de faire des films. J'y ai puisé des choses qui m'ont construit en tant qu'être humain, en fait, qui m'ont donné certaines valeurs que j'ai aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Voilà, c'est des films qui m'ont apporté ça, vraiment.
Ouais, sans t'en rendre compte en plus.
Et
C'est
ouais, je pense sans m'en
intéressant
rendre compte.
puisque ça permet de montrer que le parcours que tu as est quand même lié à des choses qui se sont passées, peut-être involontairement, où tu n'as pas pris conscience à ce moment-là. On est tous dans ce cas-là, hein, on a tous des moments. Dans une interview que tu as fait avec Casting, le journal Casting, j'ai
Oui.
adoré quand tu expliques le casting de la pièce de théâtre Les Deux Frères. J'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Il y a un autre truc que j'ai adoré qu'on va voir après, mais là, comment s'est passé le casting? C'est Renaud qui est venu vers toi? C'est toi qui as été vers Renaud?
Non, non, alors oui, bah, c'est une histoire assez simple, mais assez rigolote. En fait, en tant qu'acteur à Paris, il y a toujours une question cruciale, c'est d'arriver à rencontrer des
Bah
professionnels.
oui.
Et donc, on fait régulièrement des choses qui s'appellent des ateliers de rencontres. Donc, on rencontre souvent des directeurs, des directrices de casting notamment. Et puis, il y a un an, moi, j'ai fait un atelier dans lequel j'ai rencontré Renaud. C'est des ateliers qui durent généralement une demi-journée. Enfin, il y a plusieurs formules, mais voilà, là, ça durait une demi-journée. Donc, on a travaillé ensemble. On n'était pas sur la même scène, mais on s'est vu travailler l'un l'autre. Et puis, à la fin de l'atelier, il est venu me voir en me disant, dis donc, j'ai écrit une pièce il y a quelque temps que je voudrais monter. Et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu de toi en travail, là. Et je pense que ça pourrait marcher. Est-ce que ça t'intéresse de la lire? Et donc, moi qui suis plutôt du genre à ne pas refuser les propositions, quoi. Je suis plutôt d'une nature curieuse, en fait, et qui fait confiance. Donc, je lui dis, bah oui, bien sûr, envoie ma texte. Et puis voilà, en fait, ça s'est fait.
Ça
Le casting était.
s'appelle un coup de foudre, hein, pour info.
Voilà, c'est ça, le casting était fait. Alors, c'est pas vraiment un coup de foudre parce qu'il y avait quand même. Il y a beaucoup de retenue, autant chez Renaud que chez moi. Il
D'accord.
y a de la pudeur. Et donc, on a pris le temps. Il m'a envoyé le texte. Moi, j'ai pris le temps de le lire. Quelques semaines plus tard, on s'est vu, on en a discuté. Instinctivement, moi, je trouvais que le texte était vraiment intéressant. Et puis voilà, on s'est fait un premier rendez-vous, on en a discuté parce qu'il fallait que je sache aussi ce qu'il voulait faire avec ça. Qu'est-ce que voilà, est-ce que il voyait quoi comme perspective avec cette pièce? Et puis voilà, ça s'est fait comme ça et ça s'est monté finalement très vite parce que ça, on a dû se voir vraiment en novembre et on a monté la pièce. On a commencé à répéter presque début janvier. Et on était sur le plateau du Théâtre du Gouvernail où on a créé vraiment la pièce fin février. Donc en fait, on a répété très peu de temps enfin, en cumulé, ça devait être à peine 2 semaines dans le salon du studio de Renault.
D'accord. Ça fait
C'était assez
partie des coulisses.
rock'n'roll.
Oui.
Ouais.
Alors, par
Mais c'était
contre,
fait.
d'après ce que j'ai compris, tu es un sportif aussi.
Alors, j'essaye de me donner l'image d'un sportif.
J'ai cru comprendre dans une explication que je te voyais toujours donner à casting que tu parlais d'endurance. Donc,
Oui, c'est vrai, mais
t'es
c'est
un
parce que j'aime bien
marathonien en
les.
fait, c'est ça, non?
C'est ça, c'est parce que j'aime bien les métaphores. Je suis un sportif dans l'idée. Mais oui, marathonien, parce que c'est le propre de notre boulot, je crois. Mais comme c'est le propre de beaucoup de carrières artistiques, je pense. C'est-à-dire, faut arriver à tenir dans la durée. Parce que c'est ça le plus difficile. Et c'est vrai pour le travail d'acteur. Il arrive que pour certains ou certaines, ça se lance très vite et que ça prenne très vite, et tant mieux, c'est super, mais c'est quand même une ultra minorité. Pour la grande majorité, en fait, ça prend du temps, ça se construit dans le temps. C'est des carrières qui se construisent sur. On dit souvent qu'il faut une dizaine d'années entre le moment où on décide de s'y mettre et le moment où ça commence vraiment, où on est intégré dans un milieu et on peut travailler. Je parle même pas d'être connu ou reconnu parce que c'est pas forcément la question cruciale, mais où on peut vivre de ce métier-là. Donc déjà une dizaine d'années c'est beaucoup. Et puis c'est une dizaine d'années avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de moments où il se passe pas grand-chose, avec beaucoup de moments où, enfin pas grand-chose je veux dire, où on nous appelle pas forcément pour travailler. Il se passe beaucoup de choses parce qu'on est obligé d'être en action en permanence pour aller au contact, pour rencontrer des gens, pour dire qu'on est là, pour dire qu'on a envie de travailler, pour continuer à travailler, pour progresser, pour travailler notre instrument. Donc, c'est un vrai travail d'endurance parce qu'il y a plein de moments, je pense, où on a envie de lâcher. Je le vois pour moi et je le vois pour tous les acteurs et les actrices que je connais. Il n'y en a pas un ou une qui est épargné par ça, en fait. Et je sais que ça touche même des gens plus installés, même plus connus, hein, qui parfois sortent de périodes où ils ont beaucoup tourné ou beaucoup joué. Et puis ils n'ont pas de proposition et ça peut être un abîme en fait. Ça
Tout
peut
à
être
fait, on peut se retrouver face à soi-même, on se remet en
ouais, ça
couple.
peut être un gouffre qui nous avale très vite.
Alors justement, moi j'ai une question, c'est une question qui est très facile, il n'y a pas de problème. Je suis donc ici, si on est en direct du Village Lumière, sur notre festival Lumière. J'ai discuté hier avec des acteurs qui disaient que le cinéma c'est quand même plus facile, parce que le cinéma, tu fais une scène, t'as pas besoin de la retourner. Le théâtre, tous les soirs, tu recommences à zéro.
Oui, alors en fait, je pense qu'il y a des zones de facilité et de complexité des deux côtés. C'est le même cœur de métier, on va dire, c'est-à-dire être traversé, faire un chemin vers un personnage pendant que ce personnage fait un chemin vers nous, trouver le point d'équilibre et créer cette chose-là. Donc, ça, c'est le cœur du boulot. Mais après, dans la manière finale, c'est effectivement pas exactement la même manière de travailler pour une raison assez simple, en fait, je crois. C'est que la caméra vient voler des choses qu'on ne maîtrise pas, enfin prendre des choses qu'on ne maîtrise pas en tant qu'acteur.
Tout à fait.
C'est là qu'elle est le plus fort en fait. Alors qu'à l'inverse, au plateau, au théâtre, on est en maîtrise de tout. Et on produit des choses, on donne au public des choses qu'on a profondément construites. Alors on construit aussi pour le cinéma, mais c'est souvent pas ce qu'on construit le plus qui reste au montage. C'est ce qui nous a échappé sur le moment du tournage, et c'est ça qui est souvent le plus lumineux ou le plus fort ou voilà. Donc c'est pas exactement la même manière de faire, et ça part pas mal de cet endroit-là. Je pense que la personne qui nous regarde en tant qu'acteur n'est pas la même entre un public dans une salle de théâtre et une caméra sur un plateau de cinéma. Et donc c'est effectivement pas la même. Moi je dirais pas qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre. On n'y prend pas le même plaisir, par exemple au théâtre. Effectivement, ça peut être compliqué de jouer 200 fois une pièce parce qu'on se questionne sur comment remettre du charbon à chaque fois dans la machine et on doit repartir à la 201e comme si c'était la première, c'est sûr.
Exact. Ouais.
Mais on a l'avantage au théâtre, un truc très agréable, c'est qu'une fois qu'on monte sur scène, bah, c'est parti pendant 1 heure et demie en fait. Et on a un vrai parcours, on a une vraie continuité, on a un vrai truc. Qui est fou quand on traverse quelque chose, on fait vraiment une traversée, on fait un voyage pendant 1 heure et demie. D'ailleurs, avec Renaud, par exemple, avant de jouer, on se dit souvent, bon, bah, rendez-vous de l'autre côté, quoi. Il y a un truc comme ça, on part et puis voilà, on voit comment on est arrivé de l'autre côté. À l'inverse, au cinéma, on peut travailler dans des détails, dans des choses, parce qu'on travaille effectivement sur des prises beaucoup plus courtes.
Oui.
Donc on travaille dans des détails, on travaille dans des instantanés, on travaille complètement en désarticulé du personnage parce que ça n'arrive à peu près jamais qu'on tourne dans la chronologie. Donc on va chercher d'autres choses en fait, on va chercher une énergie de l'instant très fort, mais en même temps il faut voir la construction du personnage dans la tête pour bien être sûr de pas se tromper de là où il en est dans sa progression. Et puis on a aussi ce truc qui est que on peut un peu rater au cinéma là où on peut pas complètement rater au théâtre. Enfin, au théâtre, on trébuche, mais il faut qu'on se relève tout de suite et puis qu'on continue. Au cinéma, on peut rater et dire, attendez, pardon, on peut la refaire hein, parce que j'ai, voilà, on a quand même, c'est un rapport différent, quoi. On peut tester des choses un peu plus, je trouve, au cinéma, parce qu'on sait qu'on peut rater, surtout aujourd'hui, on travaille plus en pellicule.
Oui.
Donc, voilà, ça nous libère sur d'autres choses. En
D'accord,
fait,
d'accord.
le théâtre nous emmène dans un élan qui des fois nous emmène dans des endroits qu'on n'imaginait pas. Et le cinéma, c'est autre chose, c'est plus l'élan de l'instantané et puis un peu moins de peur de rater peut-être. Voilà. Enfin, je dis ça en même temps, des fois quand le moteur est lancé, on a aussi pas envie de rater du tout, hein, bien sûr.
Allez, dernière question, parce que on a en ce
Je
dimanche
parle beaucoup.
l'ouverture du salon du DVD. Pour toi, petit écran, grand écran?
Non mais grand écran quand même. En fait, grand écran quand même parce que c'est marrant, je m'en suis rendu compte un peu à la sortie du
Du
Covid là.
confinement, ouais.
Je me rappelle très bien d'une journée où je suis allé voir deux films, le film de Stéphane Brisé dont j'ai perdu le titre et bon bref, j'étais allé voir deux films d'affilée qui m'avaient fortement impacté, qui sont deux films qui parlent beaucoup du rapport au travail, au monde du travail. L'autre film c'est l'histoire d'une femme, d'une mère. isolé, qui vit très loin de Paris et qui doit faire les allers-retours tous les jours. Et voilà, c'est la complexité de ça. C'est joué par Laure Calamy qui est excellente dedans. Et puis il y avait ce film de Stéphane Brisé avec Sandrine Kiberlain et. Et bon, bref, voilà, oui. J'ai des trous de mémoire ce matin. Et en fait, je suis sorti du deuxième film et je me suis dit, c'est quand même fascinant le cinéma et c'est quand même essentiel parce qu'il nous prend en otage et c'est précieux. C'est-à-dire, c'est une prise d'otage précieuse. Quand je suis en train de regarder un film, par exemple, le film de Stéphane Brisé, si je l'avais regardé chez moi, en fait, si à un moment donné, si je ressens à un moment donné d'inconfort par rapport à ce qui m'est raconté, même inconsciemment, je peux me lever pour aller me chercher un truc à grignoter, me dire que tiens, j'ai oublié de lancer la lessive ou je vais donner à manger à mon chat ou peu importe. Et donc, je vais avoir un échappatoire, moi, en tant que spectateur, à ce que me propose le réalisateur ou la réalisatrice comme récit, même si c'est inconfortable par moment. Au cinéma, je l'ai pas, cet échappatoire. Enfin, en fait, je peux me lever et partir, mais c'est un coût beaucoup plus élevé, en fait, en termes d'action humaine. Et donc, je me le permets beaucoup moins. Et donc, je me prends les films beaucoup plus en pleine tronche, quoi. Il y a un truc plus fort, plus puissant. Et puis, en plus, c'est une expérience aussi collective, même si on est chacun dans son siège. Mais donc, il y a quand même un truc très fort dans le cinéma. Mais ça veut pas dire que ce qui existe aujourd'hui, la disponibilité des films chez nous est un truc super parce que ça permet à beaucoup plus de gens de découvrir beaucoup plus de films et il y a quand même un truc intéressant là-dedans, c'est-à-dire que la culture cinéphilique peut augmenter, je pense que sans doute elle a pu augmenter aussi, mais l'expérience de la salle est quand même un truc unique pour ça, c'est-à-dire que on sent vraiment que quelqu'un nous parle et on peut pas trop ne pas l'écouter en fait. Et ça, c'est génial. Enfin, pour moi qui suis notamment pas mal engagé sur ces enjeux de porter des récits qui font sens, le cinéma est un endroit fort, un peu comme le théâtre, quoi. C'est, voilà, une fois qu'on est là et qu'on est assis, il va falloir écouter, quoi. Et ça, c'est super. Après, c'est à nous de bosser pour que le message soit intéressant, ou drôle, ou des fois triste, ou voilà, mais en tout cas, juste. Mais en tant que spectateur ou spectatrice, je trouve que la salle, c'est un très bel endroit. Ouais.
C'est joli cette correspondance entre les deux que tu pratiques, toi. On rappelle juste comment faire pour aller voir les deux frères, comment faire pour réserver et tout.
Alors, c'est à la Comédie des Trois Bornes, donc.
À Paris,
tous
hein. À Paris.
Pardon ?
À Paris.
Oui, à Paris, ouais, tout à fait. À la Comédie des Trois Bornes, à Paris, rue des Trois Bornes, c'est dans le 11e arrondissement. On joue tous les jeudis à 21h30. Et pour venir nous voir, le plus simple, c'est de réserver en passant par le site de la Comédie des Trois Bornes, .com. Ou sinon, en venant directement sur place, il reste parfois quelques places le soir même, même si ça a tendance à se remplir. Voilà, c'est aussi possible. Mais le mieux, c'est de réserver un petit peu en avance et on joue tous les jeudis soirs à 21h30 pour l'instant jusqu'à la fin de l'année sans problème.
D'accord. Voilà. Bon, je pense que tu entends l'annonce concernant l'ouverture du salon du DVD. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir à aller voir au Théâtre des Trois Bornes les deux frères avec Renaud Merviel et Julien. Ouais. Et puis, n'oubliez pas aussi notre Festival Lumière jusqu'à dimanche prochain. Je vous rappelle que notre prix Lumière 2022, c'est Tim Burton. Et qu'il y a encore de la place pour aller voir son film Édouard aux mains d'argent, qui va tourner dimanche prochain à l'Alten Garnier. Ok. Merci à toi, Julien.
Merci beaucoup pour cette interview et ce moment. Ouais.